Il lui a transmis le rapport à la terre, au langage et au livre. Aujourd'hui qu'il a disparu, elle prend la plume et sort de l'anonymat ce père déraciné, tiraillé entre la France et l'Algérie.
Chantal Leroux.
Bonjour Rachida Brakni.
Bonjour.
Vous êtes actrice au théâtre, au cinéma, à la télévision, réalisatrice, metteuse en scène, chanteuse et désormais écrivaine. Et l'on est ravis de vous recevoir pour parler du livre « Hommage à votre père », Kadour, que vous publiez chez Stock. Kadour, c'était le prénom de votre père, décédé le 15 août 2020. Alors votre livre, qui est en fait une longue lettre adressée à votre père, commence par cette phrase « Ce n'est pas un jour pour mourir ». Évidemment, il n'y a jamais de bon jour pour mourir, mais là, en pleine crise Covid, le week-end du 15 août, tout va s'avérer très compliqué. D'abord, en arrivant dans le pavillon de vos parents, en banlieue parisienne, vous vous rendez compte que le deuil sera collectif. La maison est pleine de monde et cela vous contrarie. Pourquoi ?
Ça me contrarie pour la bonne et simple raison que j'ai déjà perdu beaucoup de temps parce que je fais ce voyage du sud de la France à la région parisienne
en train.
Exactement, et j'essaye de capturer le visage de mon père avant qu'il ne m'échappe à jamais, d'essayer de figer, de fixer une photo de lui. Et malheureusement, il m'échappe dans ce train lancé à grande vitesse. Et quand j'arrive à la maison, je n'ai qu'une envie, c'est de pouvoir être auprès de ma mère, avec mon frère et ma sœur. Et malheureusement, j'arrive, la maison est déjà pleine et évidemment que c'est douloureux, sauf que tout au long du récit, mon point de vue va changer et on comprendra pourquoi. Parce que ce deuil qui me paraît confisqué, finalement, je me rends compte à quel point, finalement, tous ces gens qui sont présents prennent aussi leur part de chagrin. Et que cette part, elle a le mérite de pouvoir, d'une certaine manière, à alléger ma douleur dans le sens où le poids de la peine se répartit avec tous ceux qui sont présents. Chacun prend sa part.
Et parmi toutes les choses qui se bousculent dans votre tête, il y a le problème du transfert du corps de votre père en Algérie, où il voulait être enterré. Et cette question qui vous taraude, va-t-on nous laisser l'accompagner pour ce dernier voyage, alors que les frontières entre les deux pays sont fermées ? Vous l'avez compris, ce vœu de votre père de vouloir être enterré en Algérie ?
Je l'ai compris, oui et non. Alors déjà, d'une part, je me devais de respecter sa volonté, une volonté farouche d'être enterré dans le cimetière de Tipaza. Et à la fois, pendant des années, j'ai tenté de le convaincre de renoncer à ce choix, pour la bonne et simple raison que je me disais, je ne pourrais pas me recueillir sur sa tombe aussi facilement que s'il avait été enterré sur le territoire français. Mais à la fois, je comprends parce que son orgueil et sa fierté ne se marchandaient pas. Et tout au long du livre, je questionne cette chose qui est pourquoi vouloir à tout prix être enterré sur la terre de... du pays qu'il a vu naître. Et j'échafaude des hypothèses et à la fois, je pense que j'ai des réponses assez tangibles qui déterminent son choix et je le respecte éminemment, évidemment. Mais c'est encore une fois, voilà, l'exil, comme le deuil, déchire indéfiniment et c'est cette chose, cette espèce de fatum qui, moi, m'est très difficile à supporter. Et je me rends compte qu'avec les conditions qui sont liées au Covid, aux restrictions sanitaires, encore une fois, le deuil nous sépare et c'est très difficile, évidemment, à vivre pour la fille que je suis.
Alors, parmi les explications possibles au fait que votre père voulait vraiment être enterré en Algérie, dans le cimetière de Tipaza, il y a le fait qu'il a toujours été tiraillé entre les deux pays. Il ne s'est jamais senti chez lui en France. Et il a cru pendant très longtemps qu'il pourrait rentrer en Algérie. Et puis, ça ne s'est pas fait.
Non, parce que moi, j'ai grandi avec l'idée que mes parents, après mon bac, allaient retourner vivre en Algérie. Cette situation provisoire, s'est finalement transformé en situation définitive. Et c'est ça qui m'intéressait aussi de raconter, c'est cette espèce de zone grise pour mon père, mais pour tant d'hommes, pour tant d'immigrés, qui est que vous n'êtes plus tout à fait de votre pays d'origine, entre guillemets, puisque l'histoire de ce pays a continué de s'écrire sans vous, et vous n'êtes pas tout à fait non plus de ce pays d'accueil, parce que tout concourt à vous rappeler que vous n'êtes pas d'ici, que vous n'êtes pas français. Et mon père, je pense que ça a été très compliqué pour lui d'évoluer dans cette zone grise, à l'image de tous ces hommes qui finalement ne repartiront que les pieds devant dans leur pays d'origine. Et cette volonté farouche de vouloir être enterré en Algérie, je pense qu'elle est liée à un certain nombre de facteurs. J'en énumère un certain nombre. La première, c'est que cet homme qui a travaillé toute sa vie en France, qui s'est esquinté la vie au travail et qui me disait parfois, moi, qu'on reproche d'enlever le pain de la bouche des véritables Français. Et puis, j'ai été élevée aussi dans cette idée, on n'est pas chez nous, il ne faut pas se faire remarquer, en réponse à la célèbre phrase frontiste, on est chez nous. Et cet homme qui s'est esquinté la vie au travail, qui a eu un certain nombre d'accidents de travail tout au long de sa vie.
Il a été ouvrier dans le bâtiment,
tout
sur
à fait.
Les chantiers, il
a à été l'usine.
Chauffeur routier.
Exactement.
Et chauffeur-livreur.
Exactement, tout à fait.
Jusqu'à une chute fatale ou presque, puisque on le déclare inapte à travailler. Et il est forcé, contraint
d'arrêter.
Et on ne lui verse en plus qu'une indemnité dérisoire. Sans tenir compte des années où il a travaillé en Algérie, alors qu'à l'époque, l'Algérie était française.
Tout à fait.
Enfin, c'est vrai que c'est une somme d'injustice.
C'est une somme d'injustice. Et pour lui, retourner en Algérie, je crois que d'une certaine manière, c'était une espèce de fierté de dire, voilà, j'ai perdu deux doigts à l'usine, j'ai eu différents accidents, j'ai été immobilisée pendant des mois et des mois sur un lit d'hôpital, et ben je vais rentrer dans mon pays avec mes restes, ma carcasse, mon squelette, et on ne pourra pas ronger mes os. Il y a quelque chose de cet ordre-là, et puis il y a aussi, je pense que ça s'inscrit aussi dans cette fameuse nuit du 17 octobre 61, où mon père a manifesté, et cette fameuse nuit sanglante de sang algérien
jeté dans la Seine
tout
par la
fait.
Police de Maurice Papon.
Exactement. Et mon père a été présent lors de cette nuit. Il n'a jamais voulu m'en dire plus, à part qu'il avait manifesté. Et je crois que son nom farouche s'inscrit aussi dans cette fameuse nuit.
Rachida Brakni, vous pouvez nous lire un premier extrait de votre livre ?
Je devais avoir 13 ans, un peu plus ou un peu moins, peu importe. Je venais de rentrer à la maison après avoir quitté des amis, quand quelques minutes plus tard, quelqu'un sonne à la porte. « Tu vas ouvrir ?» Une femme de la cité, qui n'habite pas notre immeuble, mais que tu connais de vue, se tient devant toi. « Elle vient pour moi, » dit-elle avec gravité, « et uniquement pour mon bien. » Guidée par son altruisme, elle se doit de te mettre en garde. Elle m'a vu discuter avec des garçons. « Je suis une jeune fille, ma place n'est pas dehors, les gens du quartier vont jaser, ils vont se faire des idées. » Comme chacun le sait, les gens par nature sont médisants. Son devoir est donc de te prévenir pour mieux guérir. Tu restes silencieux, étrangement calme, ce qui n'a rien pour me rassurer. Je sais combien le regard de l'autre pèse dans nos sociétés. Par la porte de ma chambre restée entrebâillée, j'écoute le fiel qui se déverse de la bouche de cette sorcière. La source de sa logorée se tarit enfin. Mais comme tu ne dis toujours rien, elle ne sait plus sur quel pied danser. Après un long silence, et avant de lui claquer la porte au nez, tu lui as retorqué « Je ne sais pas de quelle fille vous parlez, je n'ai que des garçons. » Tu ne t'en souviens probablement pas, mais ce jour-là, j'ai mesuré la chance que j'avais de t'avoir pour père. Ce n'était pas faire insulte à mon sexe, bien au contraire. Tu m'en avais affranchi en m'érigeant à l'égal d'un homme. Cette offrande sera la clé de voûte qui définira et déterminera mon rapport au monde. »
Rachida Brakni, cet épisode étonnant, mais il y en a beaucoup d'autres dans votre livre, c'est ce qui vous fait dire que sans votre père, vous ne seriez pas la femme que vous êtes ?
Oui, je crois.
Qu'est-ce qu'il vous a donné ?
Déjà, avec l'extrait que je viens de lire, je pense qu'il m'a donné la clé la plus précieuse, celle qui ouvre tous les coffres, celle qui ouvre toutes les portes, qui est une clé que je pourrais appeler la clé de la liberté et qui me permettra d'avancer en sachant que je suis l'égale d'un homme. Et ça m'affranchira de tout, finalement. Et d'une certaine manière, c'était une façon de me dire, quoi que tu fasses, quoi que tu entreprennes, je suis à tes côtés et je te soutiens.
Il vous a toujours laissé libre de vos choix.
Oui, toujours.
Même les plus surprenants par rapport à lui et à son parcours.
Bien sûr. Et parfois, d'ailleurs, c'est ce qui a pu me blesser quand j'ai commencé à faire ce métier de comédienne. Et peut-être que d'une certaine manière, c'est aussi pour ça que j'ai voulu écrire ce livre. C'est que quand j'ai commencé à faire ce métier, avec la naïveté et l'insouciance qui me caractérisaient, j'étais très, très heurtée. Par le fait qu'on puisse réduire mes parents à une sorte de cliché qui me blessait parce que je ne me reconnaissais pas là-dedans et je ne reconnaissais surtout pas la figure de mon père ou la figure de ma mère. Et par égard pour eux et par égard pour lui, je me devais de lui rendre justice d'une certaine manière ou comme peut le dire parfois Annie Ernaux, venger sa race en remettant les choses au bon endroit.
Annie Ernaux, dont vous aviez beaucoup aimé La Place, ce roman où elle aussi évoquait la figure de son père disparu.
Oui, et sans le savoir, elle m'a transmis un témoin que j'ai pris et qui m'a libérée pour commencer à écrire le livre, ce livre Kadour, et à convoquer cette figure paternelle. Annie Ernaux, oui, elle a, entre autres choses, mais en tout cas, elle a permis ça.
Et de toute façon, déjà toute petite, vous aviez un caractère bien trempé. Votre frère Kader vous surnommait en cachette Poutine.
Oui.
Vous l'avez mal pris quand il vous l'a...
Évidemment. Qui a envie d'être comparé à un dictateur? Évidemment que ça m'a heurté.
Mais il ajoute que cette trouvaille faisait rire votre père.
Tout à fait. Et puis dans sa bouche, ça sonnait comme une marque de profond respect. Puisque quand je lui ai dit, mais comment tu peux me surnommer Poutine, enfin, c'est absolument atroce. Il me dit, mais non, au contraire, comme lui, on te craint et tu sais te faire respecter. Alors, certes, la comparaison est douteuse, mais je le prends comme un compliment dans sa bouche parce que je sais ce qu'elle sous-tend.
Et votre père, lui, vous surnommait l'avocate des pauvres.
Oui.
Pourquoi ?
Parce que je prenais toujours fait et cause pour tout ce qui pouvait s'apparenter à de l'injustice et que je pense que je caressais le rêve enfant d'être avocate et jusqu'à très tard d'ailleurs.
Vous aviez commencé à lire le code pénal ?
Tout à fait, je lisais le code pénal à l'âge de 14 ans et des figures comme Gisèle Halimi ou Robert Badinter, voilà, c'est des figures qui m'inspiraient et je pense que étant l'aînée de ma fratrie et étant celle qui traduisait les documents pour mes parents, qui me les accompagnait dans l'administration, si je rêvais d'être avocate, je pense que d'une certaine manière, c'était aussi pour leur rendre justice et puis pour être cette avocate des pauvres, comme mon père me surnommait.
سافر تروح تعيا
Rachida Brakni, qu'est-ce que cette chanson de Rachida fait résonner en vous ?
Ah, beaucoup de choses. La première, c'est que pour qui comprend les paroles, c'est une chanson très douloureuse qui raconte l'exil d'un homme qui a quitté son pays et qui ne soupçonnait pas que ce serait aussi dur. Et elle est d'autant plus bouleversante que la musique est très entraînante. Et cette chanson qui a été un tube grâce à Rachida, qui est une reprise à la base d'une chanson de Dahmen al-Harachi, beaucoup dansent sur cette chanson sans comprendre et sans se douter ce que ce texte recèle. Et évidemment, elle me touche et elle me bouleverse pour ce qu'elle raconte. Mais aussi, cette musique entraînante, c'est une façon de ne pas s'apesantir et d'être en mouvement. Parce que si on s'arrête et si on prend le temps de s'interroger sur ce qu'a été sa vie de labeur, en l'occurrence quand je pense à celle de mon père, on s'écroule. Alors mieux vaut être embarqué par la musique et avancer.
Oui, parce que votre père ne s'est jamais plaint de ses conditions de travail.
Non.
Et vous découvrez un jour dans un livre de Robert Linhart que la grille salariale dans les usines Citroën variait en fonction de l'origine de l'ouvrier. C'était dans les années 60 à peu près.
Oui.
Et vous racontez à votre père.
Mais oui,
vous l'interrogez. Voilà, vous êtes indigné. Et lui, qu'est-ce qu'il vous répond ?
Bah, il me répond, oui, ma chérie, c'était comme ça. Je lui disais, mais tu t'es pas révoltée, comment t'as pu laisser faire ? Il me dit, écoute, si je disais quoi que ce soit, on me disait, mais prends la porte, il y en a plein d'autres qui prendront ta place.
Et les Arabes et les Noirs étaient moins bien payés
Tout
que
à fait.
Les Espagnols et
les Italiens.
Italiens,
qui eux-mêmes étaient déjà moins bien payés que les Français de souche, on va dire. Et évidemment que cette injustice m'a révoltée. Mais en ça, la littérature a permis, en l'occurrence avec ce livre, d'en apprendre un peu plus sur mon père. Je ne l'aurais probablement jamais su.
Et c'est ce que j'allais vous dire, parce qu'après la mort de votre père, en commençant à écrire ce livre, j'imagine, vous vous êtes aperçu qu'en fait, vous saviez peu de choses de lui.
Bien sûr.
Parce qu'il était taiseux.
Tout à fait.
Et parce qu'il ne se plaignait pas.
Non.
Et qu'il restait mutique, par exemple, sur son enfance malheureuse, misérable, marquée par un drame.
Tout à fait. Oui, mais mon père a perdu ses parents à l'âge de 7 ans. Et il s'est retrouvé à la rue de ses 7 ans à ses 18 ans avant de quitter l'Algérie. Mais je crois que c'est plusieurs sentiments mêlés. Déjà, il y a une part, la pudeur. Et puis, je pense que de ressasser le mauvais, ça ne fait pas avancer. C'est ce que me disait mon père. Et puis, par ailleurs, je pense que c'était une façon de ne pas nous encombrer. Cette espèce d'élégance comme ça, de ne pas nous encombrer. Et puis, à quoi bon ? Sa vie a été telle qu'elle. Et de ressasser encore cette chose du mouvement, c'est un peu à l'image de l'homme qui marche, de Giacometti, qui est en déséquilibre, mais qui est en mouvement. Parce que si on commence à s'interroger sur ce que sont ses conditions de travail, sur la pénibilité, sur sa vie, on s'écroule et on se brise.
Et vous lui dites dans cette lettre, sans transition, tu passeras du colon au patron. C'est dire aussi l'ampleur des espoirs déçus, j'imagine. Quand il arrive à Marseille, il espère avoir une vie meilleure
Bien sûr.
Que celle qu'il avait en Algérie.
En Algérie, où il travaillait pour le compte d'un colon. Et il n'était même pas logé puisqu'il il dormait dehors. Et oui, il passera sans transition, en effet, du colon au statut de travailleur immigré. Mais encore une fois, voilà, ce n'est qu'une vie de labeur. Et puis, à l'image de tant d'hommes, quel qu'il soit, une vie de labeur. Et puis, quand on prend sa retraite, on pense qu'on va pouvoir enfin en profiter. Mais finalement, non, parce que le corps est tellement brisé que c'est là que, justement, la pénibilité remonte et la douleur se fait plus sournoise.
Rachida Brakni, je voudrais qu'on parle de la langue arabe. Vous rentrez un dimanche chez vos parents pour le déjeuner traditionnel. Vous aidez votre mère à préparer le repas. Votre père est au salon avec votre jeune sœur, Jamila. Quand quelque chose vous interpelle, est-ce que vous pouvez nous lire la suite, Rachida ?
Votre conversation couvre le son de la télé, mais il suffira d'un blanc de 2 secondes, mettant en exergue la voix en arabe du présentateur de TV2, pour que m'apparaisse enfin la cause de mon émoi. La langue, c'est bien cela. Tu parles avec ta fille en français et non en arabe, comme tu l'as toujours fait. À mon insu, tu as glissé lentement mais sûrement vers cette langue avec la complicité de ma sœur. Je n'ai rien vu venir. Sous mes yeux, un corps étranger a fait irruption dans notre sanctuaire. Sans crier gare, le dehors s'est immiscé dans le dedans. Comment et quand cela s'est-il produit? Du plus loin que je me souvienne, nous avons toujours parlé en arabe à la maison, ou plus exactement en derija, un dialecte algérien, une langue hybride qui porte en elle toutes les couches des migrations et invasions successives. Que s'est-il passé pendant mon absence? Pourquoi subitement te mettre à parler le français à la maison? Toi qui étais persuadé qu'un jour ou l'autre, par choix ou contraint, il te faudrait retourner d'où tu viens, reprenant le « on n'est pas chez nous » en réponse à la célèbre formule frontiste « on est chez nous ». Voilà tout à coup que tu prends possession du français. Quel est le sens de cette métamorphose? Le dernier bastion de ta résistance était-il tombé?
Rachida Brakni, comment expliquez-vous avec du recul que vous vous soyez sentie presque blessée, alors peut-être que le mot est trop fort, en surprenant votre père en train de discuter avec votre sœur en français?
Si, je crois qu'on peut dire blessée. J'ai été blessée sur le moment, je me suis sentie blessée parce que parler cette langue à la maison, qui nous était presque interdite à l'extérieur de notre sanctuaire, parce que la suspicion, parce que cette langue a moins la cote entre guillemets que l'anglais, et je me suis sentie blessée, oui, parce que c'était, je crois, le seul héritage que mon père pouvait me transmettre, c'était cette langue. Et tout d'un coup, je sentais bien que d'une certaine manière, pour lui, faire résonner cette langue, c'était une façon aussi de continuer à faire vivre une histoire. Et puis cette graine qu'il avait plantée en nous avec cette langue, c'était aussi pour qu'elle puisse pousser, elle puisse s'épanouir. Et tout d'un coup, le fait qu'il renonce à ça, ça m'a blessée et ça m'a profondément attristée pour lui, parce que c'était finalement le seul lien qui lui restait avec son pays d'origine. Et c'est ce que je raconte d'ailleurs dans le livre, c'est comme si tout d'un coup, lui qui avait déjà émigré quand il a eu 18 ans pour arriver en France, j'assistais impuissante une seconde fois à sa seconde migration au sein même de son propre territoire. Et ça m'a profondément peinée pour lui, parce que je me suis dit, voilà, cette zone grise, elle est terrible, parce que lui qui a passé son temps à planter des boutures d'un figuier qui était le figuier qui venait d'Algérie, de type Aza, et il aimait planter cet arbre chez ses voisins, chez ses amis, chez moi, au gré de mes déménagements. C'était une façon de continuer à faire vivre son histoire, son enfance. Et la langue participe à ça. Changer de langue, c'est changer de territoire, c'est changer de culture aussi d'une certaine manière. Et ne plus entendre cette langue résonner sous son propre toit, ça m'a profondément attristée. Mais en même temps, c'est ce que je dis, c'est un processus naturel. C'est que mon père, mes parents parlaient en arabe avec moi parce qu'ils ne maîtrisaient pas le français. Et ma sœur, qui a 10 ans de moins que moi, évidemment qu'il a passé déjà beaucoup de temps avec elle. Et je pense qu'il a appris à maîtriser cette langue. Et c'était tout simplement naturel de commencer à la faire résonner dans notre sanctuaire.
On entend votre attachement à l'arabe. Pour vous, à l'époque, que représentait le français?
Le français, alors déjà, d'une part, c'était... je considère que c'est un peu ma jambe... Au même titre que mes parents, mon père et ma mère, c'est ma jambe gauche et ma jambe droite. La langue arabe et la langue française, c'est ma jambe gauche et ma jambe droite. Et la langue française, qui est une langue que j'aime profondément, dans cette idée d'être avocate et de prendre fait et cause pour tout ce qui pouvait s'apparenter à de l'injustice, la langue française, je me devais de la maîtriser parce que pour moi, c'était non seulement la plus belle des armures, mais aussi la plus belle des armes quand il faudrait que je rende justice à mes parents et par ricochet aussi à d'autres. Et cette langue française, très jeune, j'ai voulu la maîtriser et savoir la parler et bien mieux que les Français de souche, entre guillemets. Et d'une certaine manière, c'était aussi faire mienne la phrase de Kateb Yassin qui était « Le français est mon butin de guerre ».
Vous racontez un souvenir joyeux, les vacances en famille chaque été à Oran, avec tout un cérémonial en partant de Paris ou de région parisienne jusqu'à Oran. À Oran, la mer n'est pas loin, mais on n'y va pas. C'est une perte de temps, un plaisir insignifiant et c'est dangereux. Et vous, vous montez lire et bronzer sur la terrasse du toit en béton, un four à ciel ouvert, peu importe. Vous dévorez les classiques de la littérature française et à défaut de nager dans la Méditerranée, vous nagez dans le bonheur ?
Oui. Oh bah oui, évidemment. Moi, mes parents m'ont toujours encouragé à lire et m'ont toujours offert des livres. Alors, on me donnait de l'argent pour courir dans cette petite librairie qui faisait également tabac pour m'acheter des livres. Alors évidemment, je prenais soin de mes livres. Je faisais attention à mes choix. Donc évidemment, ça se portait sur la littérature française classique. Et ces voyages en Algérie, les livres ont été pour moi une ouverture sur le monde extraordinaire. Et puis c'était des échappées parce que mes vacances en Algérie, elles n'étaient pas très amusantes dans le fond. Parce que pour mes parents, c'était un retour triomphal au pays, entre guillemets. Mais il fallait voir la famille, les amis. Alors pour eux, c'était très joyeux. Pour moi, ça l'était beaucoup moins. Et donc, mon voyage, c'était un voyage dans le voyage finalement. Et la littérature a été une compagne et une échappée absolument extraordinaire.
Tout à l'heure, vous disiez que l'arabe était la seule richesse que votre père pouvait vous léguer. Est-ce que cet héritage, vous l'avez transmis à vos propres enfants ?
Oui, bien sûr. Bien sûr, déjà, évidemment, on est fait de ce qui nous a été transmis et j'essaye évidemment de leur transmettre toutes ces valeurs entre guillemets cardinales que j'ai pu recevoir et évidemment que j'essaye de leur transmettre le goût de la lecture, ce que m'a transmis mon père en faisant par exemple de moi l'égal d'un homme, c'est ce que je transmets aussi à ma fille. Donc oui, tout cet héritage, tout ce bagage que j'ai glané comme ça au fil de ces années, que ce soit avec eux, à travers eux, par l'école, évidemment que je leur transmets avec bonheur.
Merci beaucoup Rachida Brakni d'avoir été notre invitée. Il faut lire Kadour qui vient de paraître aux éditions Stock. J'espère que c'est le premier d'une longue liste de livres que vous allez écrire. Merci à Olivier Roux à la réalisation et à Cécile Lavolo à la coordination. Vous pouvez retrouver De Vive Voix sur notre site internet rfi.fr ou sur l'application RFI Pure Radio. À bientôt, bonne fin de semaine et portez-vous bien.